Vous écoutez, on lit pour vous.
En Irak, voyage entre ruines et nostalgie sur les traces de l'Orient Express. Un texte de Justine Salvestroni, paru le 12 juillet 2025 dans Le Devoir. Chaque soir, le train qui roule entre Bagdad et Bassora traverse des paysages chargés d'histoire et de souvenirs. Malgré un réseau dévasté par des décennies de guerre, un projet ambitieux, financé par la Banque mondiale, promet de relier à nouveau l'Irak à ses voisins et à son passé glorieux. Le Devoir est monté à bord du train de nuit. Prépare-toi, on risque de te lancer des cailloux, c'est la tradition, nous prévient un ami avant le départ du train, qui parcourt les 550 kilomètres qui séparent Bagdad, la capitale irakienne, de Bassora, grande ville du sud située au bord du golfe Persique. Il ne faut que quelques minutes pour qu'une pierre, lancée par un adolescent hilar, frappe la vitre. D'autres enfants, à l'enthousiasme plus tendre, font de grands signes de la main. Le voyage peut commencer. Le train quitte Bagdad tous les soirs à 19h30, après des contrôles d'identité et de bagages minutieux. Il avance lentement, longeant un interminable cimetière ferroviaire. Des dizaines de voitures et de locomotives rouillées, abandonnées, encombrent les rails d'Ekati. Elle rappelle qu'autrefois, l'Irak était relié à Londres, à Paris, à Istanbul et au reste du Moyen-Orient par le Taurus Express, extension de l'Orient Express. La version actuelle du Taurus Express, probablement aussi lente que son ancêtre, il faut plus de 10 heures pour arriver à Bassora, est chinoise. La voiture-restaurant n'a rien du luxe décrit dans les romans d'Agatha Christie. Il s'agit plutôt d'une cantine où l'on sert du thé noir très sucré, comme on le boit toujours en Irak, des nouilles instantanées, des feuilletés réchauffées expéditivement. Peu importe, puisque les Irakiens ne voyagent jamais sans un vrai repas. Les passagers déballent de grandes galettes de pain, des grillades, des ragoûts, du riz, des falafels. Les usagers habituels des trains irakiens, des policiers et des marins, des petits vieux qui allument cigarette sur cigarette, des adolescentes chaperonnées, des enfants qui courent pour échapper à la surveillance de leurs parents, déballent leur fastueux dîner. Ils proposent tous de le partager avec l'étrangère qui, respectant naïvement la règle inscrite au dos du billet, pas de nourriture dans le train, n'a rien apporté. Toute l'histoire de la Mésopotamie. Ces passagers joyeux s'apprêtent à traverser le désert du sud irakien, les villes de Babylone, aujourd'hui Hilla, Ur, aujourd'hui Nassiriya, la ville sainte de Kerbala, les champs pétroliers de Roumaïla, toute l'histoire de la Mésopotamie depuis une place en compartiment, 8000 dinars, soit environ 7,20 $, une cabine de deuxième classe, 25000 dinars, environ 22,50 $, ou de première classe, 30000 dinars, environ 27 $. Avec sa minuscule salle de bain, une penderie, un réfrigérateur et la télévision, cette capsule climatisée est un agréable fac-similé du Taurus Express. À la fin du mois de juin, c'est déjà les vacances d'été. Nouar part visiter de la famille à Bagdad, flanquée de tantes et de cousines qui préfèrent l'ambiance, le confort, la possibilité de manger, de se promener, même si c'est long, à la rapidité inconfortable des taxis partagés. Souna, une avocate quinquagénaire et célibataire, en route pour un rendez-vous au ministère des Transports, aime la sécurité du train pour les femmes qui voyagent seules. Elle vérifie plusieurs fois pendant le trajet que la porte de la cabine, prévue pour 4 personnes, des femmes uniquement, est bien verrouillée. Malgré le confort, les tarifs modestes et l'ambiance chaleureuse, les trains sont délaissés. Issam, 32 ans, habitant de Bassora, qui va souvent à Bagdad, n'a pas pris le train depuis 2012, quand il a acheté sa première voiture et découvert la vraie liberté. Mais j'ai de très bons souvenirs des trajets de mon enfance. Mon père essayait de nous cacher dans les cabines pour ne pas payer nos billets. À l'époque, dans les années 2000, pendant la guerre, c'était le moyen de transport le plus sûr d'Irak. La ligne allait jusqu'à Mossoul. Un réseau anéanti. C'est la guerre qui a saccagé le rail irakien. Lancé sous l'Empire ottoman, poursuivi lors du mandat britannique, son développement est brutalement arrêté au début des années 1980 quand Saddam Hussein s'engage dans une longue guerre contre l'Iran. Puis les années de sanctions internationales, conséquence de la guerre du Golfe, l'invasion américaine, la guerre confessionnelle et l'occupation d'une partie du territoire par Daesh jusqu'en 2017 ont anéanti le meilleur réseau ferroviaire du Moyen-Orient. Il ne subsiste aujourd'hui qu'environ 2000 km de réseau obsolète et 135 gares souvent délabrées. En juillet 2010, un dernier train a quitté Mossoul vers la ville turque de Gaziantep sans retour. La gare de Mossoul, autrefois un point d'entrée dans le pays, a vu passer aussi bien Agatha Christie que le roi Faisal, qui y avait sa propre salle de réception, où la diva égyptienne Souma. Presque entièrement détruite par un camion piégé en 2009, elle a servi de champ de bataille dans la lutte contre Daesh et n'a jamais été reconstruite. Champ de bataille également, la vieille gare de Fallujah n'est plus. Bastion sunnite de la résistance aux Américains, la ville a été le fief de Daesh jusqu'à sa libération en 2016. Très abîmée, elle renaît aujourd'hui de ses cendres. Une nouvelle gare y a été construite. Le train qui relie à nouveau Fallujah à Bagdad depuis l'automne, certes peu fréquenté, a tout d'un miracle tant la région a été secouée ces dernières décennies. Puis il y a Bagdad, une gare magnifique inaugurée par les Britanniques en 1953, pillée lors de l'invasion américaine, restaurée par ces mêmes Américains. Majestueuse, inspirée de l'architecture coloniale, gardée par des militaires, presque vide avec ses deux départs et ses deux arrivées par jour. Une vieille locomotive trône devant l'entrée. Les guichets annoncent encore les destinations depuis longtemps devenues inaccessibles vers la Turquie et la Syrie. Même l'employé qui vend les billets dit au devoir en soupirant que c'était tellement mieux avant. Juste en face, réponse cruelle au déclin des chemins de fer, se trouve une gare routière improvisée autour d'un souk bondé, d'où partent des dizaines de minibus vers toutes les villes d'Irak à toute heure du jour et de la nuit. La gare centrale de Bagdad symbolise la nostalgie de l'âge d'or ferroviaire. Elle fait revivre aux étrangers les années du Taurus Express, qui promettait notamment aux férus d'archéologie de rejoindre l'Irak depuis Londres en seulement 8 jours sur une belle affiche de Roger Brothers datée de 1931. Pour les Irakiens, cette nostalgie est celle d'un pays qui n'avait pas encore sombré, qui ne s'était pas encore si ouvertement fracturé entre confessions. Un pays moderne où l'on pouvait vivre une histoire d'amour libre, comme dans Marina Bikom Ahmad, une ode au train de nuit chantée par Yahas Koder. Surtout, un pays encore relié à ses voisins. Des pays du Golfe à l'Europe. Ce rêve-là pourrait bientôt se concrétiser. Le 25 juin 2025, la Banque mondiale a approuvé un prêt de 930 millions de dollars américains, 1,27 milliard de dollars canadiens, destiné à la rénovation et au développement du réseau ferroviaire irakien qui pourrait retrouver son prestige d'antan. Bagdad, géographiquement centrale mais géopolitiquement insignifiante, rêve de redevenir une puissance régionale. La Banque mondiale finance ainsi un projet connu sous le nom de la Route du développement, lancé en 2023, dont le but est de relier en train, de passagers et de fret, les pays du Golfe à la Turquie, puis à l'Europe. Le trajet de Bagdad à Bassora ne prendrait alors que 4 heures. À l'est, l'Iran insiste depuis des années pour unir ses chemins de fer à ceux de l'Irak. Un tout petit tronçon de 32 kilomètres manque pour relier Bassora à Chalamtché. Ironie de l'histoire, ce sont notamment les opérations de déminage à la frontière, dangereux vestiges de l'ancienne confrontation entre les deux pays désormais alliés, qui ralentissent les travaux. Bagdad serait alors connecté à l'Iran et par conséquent aux pays du Caucase, à la Russie, voire à la Chine. Téhéran assure que cette voie est nécessaire pour que les Iraniens puissent se rendre en pèlerinage dans les lieux saints chiites en Irak, dont la très importante ville de Najaf. Le pays y gagnerait un accès direct vers la Turquie et le Golfe. Cette renaissance du réseau n'est pas encore gagnée. Le tracé des voies a ouvert un conflit entre la région semi-autonome du Kurdistan, au nord, qui souhaite faire passer le chemin de fer sur son territoire, et le refus catégorique de Bagdad, qui veut passer par Mossoul. Les 100 kilomètres de chemin de fer qui doivent relier Ramadi à Kerbala depuis 2010 ne sont toujours pas en service. Surtout, la récente guerre de 12 jours entre Israël et l'Iran, qui a paralysé l'Irak, a montré que le pays, plus d'un siècle après son indépendance, n'a toujours pas en main son destin. C'était, en Irak, Voyage entre ruines et nostalgie sur les traces de l'Orient Express, un texte de Justine Salvestroni, paru le 12 juillet 2025 dans Le Devoir.
Quand papa ou maman bascule, un texte de Geneviève Piché et autres co-signataires, paru le 30 juin 2025 dans la presse. De 10,7 à 23,3% des enfants vivent avec un parent affecté par un problème de santé mentale. Des parents aimants, mais parfois mal outillés pour concilier leurs propres difficultés et les besoins de leur enfant. Récemment, l'histoire d'une fillette de 3 ans retrouvée seule 72 heures après que sa mère eut basculé dans une autre réalité rappelle à quel point de tels drames peuvent surgir sans aucun signal d'alerte suffisant. Geneviève Piché est professeure titulaire au département de psychoéducation et de psychologie, Université du Québec en Outaouais, UQO. L'autrice est également co-directrice du Laboratoire de recherche et d'action pour les personnes ayant des problèmes de santé mentale et leurs proches, l'APPROCH, et chercheuse au Centre de recherche universitaire sur les jeunes et les familles. Les parents en souffrance ne cessent pas d'aimer. La très grande majorité sait ce que signifie être un bon parent. Mais les manifestations d'un problème de santé mentale peuvent altérer la disponibilité émotionnelle et la stabilité familiale. Dans les moments de crise, un parent peut être incapable de répondre aux besoins fondamentaux de son enfant, parfois sans même s'en rendre compte, ou en être douloureusement conscient, se sentant coupable et honteux. De leur côté, les enfants vivent, eux aussi, cette instabilité. Ils peuvent subir de la négligence involontaire, une surcharge de responsabilité, de l'insécurité affective ou des traumatismes relationnels précoces. De plus, ils sont à risque élevé de développer un problème de santé mentale. Pourtant, notre réseau de services reste mal adapté face à ces réalités familiales complexes. Les suivis en santé mentale adulte se concentrent sur l'individu en oubliant que derrière cet adulte, il y a souvent un enfant. Les professionnels manquent d'outils pour faire le lien entre la santé mentale d'un parent et la vulnérabilité d'un enfant. Les inquiétudes du parent, du partenaire, des enfants ou de leur entourage par rapport à la parentalité ou au quotidien de la famille ne sont pas systématiquement abordées ou le sont sous l'angle du risque de négligence plutôt que celui de l'accompagnement. Cette orientation peut briser le lien de confiance. Craignant d'être jugés ou de perdre la garde de leur enfant, parents et proches évitent de se confier. Il est temps d'élargir notre regard, de reconnaître la santé mentale familiale et d'agir. Nous, professeurs, parents et proches concernés, appelons à 10 mesures concrètes. 1. Former les différents acteurs du réseau à détecter la détresse parentale et à poser des questions simples mais essentielles. Comment vivez-vous votre rôle de parent? Ressentez-vous des difficultés à répondre aux besoins de votre enfant? Comment peut-on vous aider là-dedans? 2. Prioriser l'écoute et le soutien plutôt que la seule évaluation du risque, en offrant des espaces de parole sécurisés où le parent se sentira compris et non jugé. 3. Évaluer la situation familiale de manière globale, en intégrant la perspective du parent, de l'enfant et de l'entourage. 4. Créer des passerelles fonctionnelles entre les services de santé mentale adulte, jeunesse et communautaire et réserver des places consacrées à ces familles. 5. Fournir des outils d'auto-observation, grilles d'auto-soins, pour que parents et proches puissent repérer les signes de détresse. 6. Rendre accessibles en ligne des ressources concrètes et dédiées pour les parents et pour les enfants. 7. Favoriser une culture de normalisation dans laquelle demander de l'aide ne signifie pas échouer, mais agir en parent responsable. 8. Accompagner le rôle parental, même dans un contexte de trouble mental. L'on peut avoir besoin d'aide pour être un parent présent et sécurisant sans que cela remette en cause sa valeur ou son engagement. 9. Favoriser une approche d'intervention familiale dans tous les parcours de soins. Lorsqu'un adulte est suivi en santé mentale, la prise en charge familiale doit être intégrée en reconnaissant l'importance des liens affectifs et de l'environnement familial dans le rétablissement. 10. Modifier le cadre légal, prévoir en cas de trouble mental grave une exception permettant le partage automatique et encadré d'informations clés avec la famille et améliorer la continuité des soins au sein de la famille. Soutenir un parent, c'est prévenir un drame, réduire les coûts humains et sociaux et briser les cycles intergénérationnels de souffrance. Il n'y a pas de honte à vivre avec un problème de santé mentale. Mais il y a une responsabilité collective à ne pas fermer les yeux quand un parent a de la difficulté à répondre aux besoins de son enfant. Derrière chaque drame familial se cache une occasion manquée d'aider un parent. C'était « Quand papa ou maman bascule », un texte de Geneviève Piché et autres co-signataires, paru le 30 juin 2025 dans la presse.
Influencer autrement après Trump. Un texte de Maxime Bergeron, paru le 6 juillet 2025 dans La Presse. Nos chroniqueurs tendent la main à des artistes, des politiciens et des gens d'affaires qui se trouvent à un tournant de leur carrière. Maxime Bergeron s'est entretenu avec Joël Pinault, une sommité mondiale en intelligence artificielle qui vient de quitter son poste de vice-présidente chez Meta. Je trouvais que le prix à payer était trop grand. Son nom ne vous est peut-être pas familier, mais l'une des plus grandes stars de l'industrie mondiale des technos est une Montréalaise. Joël Pinault a été, pendant 8 ans, la patronne de la recherche en intelligence artificielle, IA, chez Meta, société derrière Facebook et Instagram. Les centaines de chercheurs qu'elle dirigeait partout dans le monde ont conçu nombre d'innovations que vous utilisez peut-être au quotidien sans le savoir. Elle est même entrée au sein des saints de Meta pendant les 18 derniers mois, soit le comité de direction. Aux côtés d'un groupe restreint, dont le PDG, Mark Zuckerberg, elle a orienté plusieurs des décisions stratégiques de l'entreprise évaluées à 2 400 milliards de dollars en bourse. Mais tout cela est maintenant derrière elle. La femme de 50 ans a quitté Meta à la fin de mai. Elle a renoncé à des millions futurs et au pouvoir d'influence considérable que lui conférait son titre de vice-présidente. Prochaine étape de son parcours? Inconnue. C'est plate. Je ne suis pas venue faire de grosses annonces. Ça aurait été le fun que tu aies un scoop, m'a-t-elle dit en riant, dans un café du plateau Mont-Royal, quelques jours après son départ du groupe. Je n'aurais pas eu de primeur, mais son histoire fascinante mérite d'être racontée. Joël Pinault s'est retrouvé plusieurs fois à la croisée des chemins, tout au long de sa vie, et elle a écouté ses valeurs pour guider ses décisions, y compris celle, toute récente, de quitter Meta. La raison de son départ pourrait se résumer en 2 mots, Donald Trump. Joël Pinault n'a pas digéré le virage pro-Trump des géants californiens de la techno. Ils ont manifesté publiquement leur soutien à cette administration-là et, ce faisant, légitimé ses actions. L'un des effets les plus visibles a été l'abolition des programmes de diversité et inclusion qui favorisaient l'embauche de femmes ou de gens issus des minorités. La plupart des grandes boîtes de la Silicon Valley, y compris son ex-employeur, Meta, les ont abandonnées pour se conformer à la vision anti-woke du président républicain. Une vision de tech bros, assez macho, musclé, alpha, blanche. Peut-être que l'histoire nous dira qu'à court terme, c'était la bonne décision stratégique. Mais moi, je trouvais que le prix à payer était trop grand, m'explique-t-elle. La chercheuse a eu des discussions sur le fond des choses avec ses patrons au moment d'annoncer son départ. Le ton est resté cordial. Même si on a tenté de la retenir, elle a tenu à respecter ses principes jusqu'au bout. À un moment donné, quand tu es à ce niveau-là de gestion dans une entreprise, c'est soit « disagree and commit » et tu t'alignes, ou « disagree and leave ». Elle est partie sans rancœur, assure-t-elle. Tout le monde attend que je raconte l'histoire de « comment c'est donc terrible, cette entreprise-là », dit-elle. Ce n'est pas mon expérience. Les gens ont toutes sortes d'hypothèses et pensent même que je me suis fait mettre dehors parce que j'étais une embauche de diversité. Les thèses sont partout. Ce n'est que tout récemment que l'IA a été démocratisée avec l'émergence de robots conversationnels comme ChatGPT ou Gemini et de milliers d'autres applications destinées au grand public. Mais ce secteur se développe depuis des décennies déjà. Joëlle Pinault en a été l'une des grandes artisanes. Elle a pourtant failli ne jamais emprunter cette voie. La native d'Ottawa a consacré une bonne partie de sa jeunesse à la musique. Son registre était vaste, entre l'alto, le piano et d'autres instruments. Une passion. Elle a joué pendant plusieurs années dans l'Orchestre symphonique d'Ottawa. Elle a dû affronter un dilemme au moment de choisir son parcours universitaire. Musique à McGill ou génie à Waterloo? Ça a été ma première grosse croisée des chemins, dit-elle. J'aimais beaucoup les deux, mais la musique, ça relevait plus du plaisir que du travail. L'idée de répéter 6 heures par jour, oublie ça. Cette rigueur, je l'avais dans la mathématique, les sciences, mais dans la musique, non. Elle a donc mis le cap sur Waterloo en 1993. Cette ville ontarienne a été un bastion canadien des technologies qui a vu naître des entreprises comme Research in Motion, parent du BlackBerry. Joëlle Pinault s'y est spécialisée en génie des systèmes, puis en robotique. J'ai commencé à construire un robot à 6 pattes qui se promenait, et ça a été vraiment le déclic qui m'a par la suite mené vers l'IA. Cet intérêt l'entraîne en 1998 à la prestigieuse université Carnegie Mellon à Pittsburgh, la seule au monde à offrir un doctorat en robotique à l'époque. C'est là que les germes de l'IA prennent racine et fleurissent chez la jeune scientifique. À partir de ça, il s'agissait d'aller rejoindre l'interface entre l'humain puis le robot, mais vraiment avec les algorithmes qui sont capables de choisir les bonnes actions, vulgarise-t-elle. Elle a donné naissance au premier de ses 4 enfants pendant son doctorat à Pittsburgh. Sa thèse portait sur les algorithmes pour la planification sous incertitude. C'était en 2004. Les États-Unis vivaient alors les années de George W. Bush, post-11 septembre et guerre en Irak. Une époque quasiment cute par rapport à la réalité présente. Joëlle Pinault a voulu revenir au Canada après ses études avec son mari, lui aussi chercheur. Son superviseur de thèse le lui a déconseillé. Elle risquait de gaspiller son talent en rentrant à Montréal, arguait-il. Nouveau pivot, nouveau pari. Elle atterrit à l'Université McGill, où elle fonde un laboratoire de recherche auquel elle est encore associée. Ses travaux sont remarqués en 2017 par les dirigeants de Facebook, renommée Meta quelques années plus tard. La multinationale lui offre d'ouvrir un laboratoire de pointe à Montréal. La métropole connaît alors une grande ébullition technologique centrée autour de MILA, l'Institut québécois d'intelligence artificielle, dirigé par Joshua Bengio. Le succès est au rendez-vous. Joëlle Pinault prend du galon et dirige éventuellement, à partir de Montréal, tous les labos d'IA de Meta entre New York, Paris, Tel Aviv et Seattle. Quelques 600 chercheurs au total. Les innovations sont nombreuses pendant ces 8 années à la barre. Ces équipes ont développé plusieurs projets qui se sont traduits par des applications concrètes pour les utilisateurs. Par exemple, la fonction « Edit », qui permet d'éditer des vidéos dans Instagram, le modèle Meta A1 utilisé dans Messenger et WhatsApp, ou les fonctions de traduction offertes dans les produits Meta. Vous écoutez « Influencer autrement après Trump », un texte de Maxime Bergeron paru le 6 juillet 2025 dans La Presse. Ce qui nous amène à aujourd'hui. L'IA a explosé dans les derniers mois, c'est indéniable. On peut en voir des exemples frappants dans les réseaux sociaux comme TikTok. Les vidéos factices, d'un réalisme désarmant, y pullulent. La désinformation aussi. Bien des gens, au Québec comme ailleurs, ont peur des avancées supersoniques de cette technologie, ce que Joël Pinault comprend. On peut critiquer ces outils-là, par exemple parce qu'ils sont hyper anglo-centriques, hyper centrés sur l'Amérique du Nord et qu'il y a encore plein d'inexactitudes, plein de biais. Mais les bénéfices de l'IA dépassent de loin ses inconvénients, fait valoir la scientifique. Elle cite, entre autres, la recherche de nouveaux médicaments ou de matériaux composites accélérés grâce aux capitaux de calcul et d'analyse des machines. On vient de réduire notre processus de développement de 20 ans à 1 an. C'est un autre grand pivot dont nous avons discuté pendant notre café. L'IA est là pour de bon, qu'on le veuille ou non. Il en reviendra à chacun d'adopter la posture qui lui convient, croit Joël Pinault. L'image qui me vient là, c'est une rivière, illustre-t-elle. La rivière coule, tu as des choix. Tu peux décider de nager contre le courant, mais tu risques de t'épuiser. Tu peux décider de débarquer du courant, puis de te stationner sur le côté, d'où tu vas regarder la rivière passer. Pour des gens, c'est correct. Il y en a qui veulent un peu se soustraire de ce monde numérique. Ils peuvent, mais ils n'auront pas nécessairement accès à certains emplois ou opportunités. Elle poursuit. Tu peux aussi juste regarder tout le courant qui s'en vient. Mais là, tu te fais pousser. Puis tu ne regardes pas où tu t'en vas. Donc, tu vas te faire frapper dans les rochers. Ou encore, tu peux regarder le courant et te dire « J'ai encore la possibilité d'aller à droite, d'aller à gauche, puis d'utiliser mon intelligence, toutes mes capacités, pour naviguer dans ce courant-là. » Ça encourage les gens à naviguer avec lucidité. Pas juste de se laisser emporter les yeux fermés. J'aurais pu écouter Joël Pinault me parler pendant des heures des mille et une applications de l'IA qu'elle a contribué à développer depuis des années. Elle a aussi pu influencer la façon de déployer cette technologie pour des milliards d'utilisateurs, avec tous les remparts éthiques qui s'imposent grâce à sa présence au comité de direction de Meta. Elle est très à l'aise avec sa démission, mais une question la taraude. Ce qui m'a le plus travaillé par rapport à ma décision, c'est est-ce qu'on a plus d'influence quand on est à l'intérieur qu'à l'extérieur? Parce que j'en avais quand même, tu sais. Son influence sera moindre hors du giron de Meta. Joël Pinault le sait. Elle passera, entre autres, par ses enseignements à McGill et ses travaux au MILA. Mais mon petit doigt me dit que la scientifique n'aura aucune difficulté à trouver une nouvelle façon de rayonner si elle le désire. Qui est Joël Pinault? Joël Pinault est né en 1974 à Ottawa. Elle détient un baccalauréat en sciences en génie de l'Université de Waterloo et une maîtrise et un doctorat en robotique de l'Université Carnegie Mellon. Elle est membre du corps professoral de MILA, Institut québécois d'intelligence artificielle, et titulaire d'une chaire en intelligence artificielle Canada, CIFAR. Ses recherches sont axées sur le développement de nouveaux modèles et algorithmes pour la planification et l'apprentissage et sur l'application de ceux-ci à des problèmes complexes en robotique, dans les soins de santé, dans les jeux et dans les agents conversationnels. Elle a été pendant 8 ans la patronne de la recherche en intelligence artificielle chez Meta jusqu'à son départ en mai 2025. Joëlle Pinault en 3 photos. Une image vaut 1000 mots, paraît-il. En voici 3 choisies par Joëlle Pinault parce qu'elle jette un éclairage sur son parcours et sur sa personnalité. Un robot développé par Joëlle Pinault pendant son doctorat. C'est un robot infirmier que j'ai développé pendant mon doctorat. Le robot interagissait avec les gens dans des foyers de personnes âgées. En fait, il n'était pas infirmier, mais plutôt social. C'était comme un accompagnant social qui leur proposait des activités, répondait à leurs questions. C'était comme une version incarnée d'un chat GPT. Mais là, on se projette en 2001 ou 2002. Ce robot-là avait déjà tous les éléments qui ont ensuite été les moteurs de mon programme de recherche. Il y avait la robotique, il y avait l'aspect de l'interaction et l'aspect d'application plus médicale. Lancement du laboratoire de recherche en intelligence artificielle de Facebook à Montréal. C'était chez Facebook en 2017. C'était à l'événement qui avait été organisé pour le lancement. Quand je pense à un événement marquant, c'en est un. Joëlle Pinault sera restée à la barre pendant 8 ans, en accumulant les responsabilités au fil de son mandat. La pause qu'elle a choisi de s'accorder représente un privilège énorme, reconnaît-elle. Il y a une notion dont on ne parle pas beaucoup, celle du « assez ». J'ai une maison et mes enfants ont accès à l'éducation. Merci, c'est assez. Je n'ai pas besoin d'une deuxième résidence. Mais mon chum insiste pour une auto parce qu'il veut aller à la pêche. Joëlle Pinault, à la conférence Nord IPS à Montréal en 2019. Beaucoup de ma carrière de recherche dans les dernières années a été centrée sur le sujet de la reproductibilité, donc de s'assurer que, quand le chercheur fait des travaux, qu'on peut les reproduire et puis les évaluer de façon rigoureuse. C'est un principe de base de la science. Si tu ne peux pas reproduire quelque chose, c'est un problème. J'ai passé pas mal de temps à construire cette culture de la reproductibilité. La photo date de 2019, quand la conférence Nord IPS était à Montréal. 8000 personnes de partout dans le monde étaient descendues pour la conférence. J'ai été invitée à donner une des conférences plénières où j'ai livré un message basé sur la reproductibilité. C'était « Influencer autrement après Trump ». Un texte de Maxime Bergeron, paru le 6 juillet 2025 dans La Presse.
La bitch de service. Une chronique de Vanessa Destinée, parue le 18 juin 2025 dans Urbania. Je l'avoue. J'ai fait le saut quand j'ai vu la couverture du prochain album de Sabrina Carpenter, une des nouvelles reines incontestées de la pop sucrée à la sauce américaine. Je suis trop paumé et trop moderne pour avoir un collier de perles, mais mon doux. Si j'en avais eu un autour du cou, je pense que je l'aurais empoigné avec la vigueur de la Madame Anglo, poignée du cul chez Eaton, cette mythique créature du folklore québécois. Par contexte, au recto de cet album à venir intitulé « Man's Best Friend », on y voit Sabrina Carpenter, en mode hashtag bouche ouverte, R.I.P. Stéphane Venn, vêtue d'une robe sexy ralanoun et agenouillée devant ce qui semble être un homme en costard qui l'attire par les cheveux. J'écris « semble » parce que je m'accroche encore à la possibilité d'une twist féministe surprise où l'on apprendrait que la personne en costard est en réalité Sabrina Carpenter elle-même, voire son dernier look lors d'un des after-parties au plus récent Met Gala, un drag king ou encore une brave lesbienne tomboy à la Roxane Bruno. Au verso de la pochette, on voit le thorax d'un chien et son cou, orné d'un collier et d'une médaille sur laquelle on peut lire « Man's best friend », le meilleur ami de l'homme. Quand on combine les deux photos, on peut aisément comprendre la métaphore audacieuse derrière. Sabrina Carpenter est une chienne. En anglais, c'est tout aussi percutant. Sabrina Carpenter is a bitch. C'est osé, mais ça n'a rien de novateur. Il s'agit d'un cas classique de réappropriation d'un mot neutre ou péjoratif utilisé pour dénigrer, rabaisser ou déshumaniser des groupes marginalisés et d'en faire un véhicule pour l'empowerment de ces mêmes groupes. À peine dévoilée, la couverture a provoqué un tollé sur les internets, polarisant immédiatement l'opinion publique entre les pourfendeurs de l'hypersexualisation des jeunes femmes d'un côté et les chevaliers de l'émancipation féminine de l'autre. Je ne vous le cacherai pas. Mon premier réflexe a été de me dire « Won't somebody think of the children ?» un peu comme dans ce mème iconique tiré des Simpsons, qui met en scène feu Maud Flanders et la femme du révérend Love Joyce, aka les avatars de ces mesdames chrétiennes virginales qui ont bu le Kool-Aid du puritanisme à l'américaine. Ma propre réaction m'a cependant surprise, considérant que j'ai moi-même vécu ma préadolescence durant l'âge d'or des Lolitas américaines, Britney Spears et Christina Aguilera en tête. Ces « good girls gone bad » contre lesquelles les médias, les professeurs et les parents nous mettaient en garde, craignant qu'elles ne nous corrompent à force de déhanchements sexés en lingerie sur des refrains analogues créés en usine par Max Martin, le grand Manitou de la pop mondiale. Mes premières années de secondaire se sont déroulées sous l'avènement des pantalons taille basse et des G-strings en dentelle gris chou rouge de chez La Senza, aka des infections à levure waiting to happen. C'était une période faste en matière d'hypersexualisation, durant laquelle on se sentait à l'aise, mes amis et moi, de chanter « My neck, my back, lick my pussy and my crack » en uniforme dans la 197 Rosemont. Quand les adultes tentaient d'intervenir, on leur riait dans la face en leur disant « Vous capotez pour rien ». Et comme de fait, mes amis et moi, on n'a pas mal viré parce qu'on a écouté « Dirty » de Christina Aguilera sur « Repeat » pendant 6 mois entre septembre 2002 et janvier 2003. Bref, je pensais que j'étais blindé, cool, relax, que je n'étais pas programmé pour succomber à la panique morale autour du corps des femmes. Pourtant, j'ai bel et bien été heurté par la pochette d'album de Sabrina Carpenter. Pourquoi? Parce que je n'y ai trouvé aucune qualité. Pas de fausse pudeur. Je vous rassure, je suis familière avec l'œuvre de Madame Carpenter. La jeune sensation roule sa bosse depuis déjà quelques années, mais c'est son album « Short and Sweet », son 6e en carrière, qui l'a mise sur la map grâce à un ingénieux virage artistique combinant une esthétique de pin-up à une bonne dose d'humour visant à taquiner gentiment les hommes. Terriblement banal à première vue, cette nouvelle direction artistique apporte en réalité un vent de fraîcheur dans le monde de la pop où les hommes gèrent les contrats d'artistes et où le male gaze demeure central, même quand les chansons sont chantées par des femmes pour des femmes. On peut remercier Taylor Swift, qui est auteure et compositrice avant d'être interprète. N'est pas Whitney Houston qui veut, d'avoir montré à une nouvelle génération de jeunes femmes blanches qu'elles avaient le droit de parler des hommes en se plaçant comme sujet plutôt que comme objet dans leurs propres chansons, même lorsqu'elles n'en sont pas les auteurs principales. Sabrina Carpenter, qui a justement assuré des premières parties de Taylor Swift lors de sa dernière tournée, fait partie de cette nouvelle génération de chanteuses qui joue avec les codes traditionnels de la pop. Elle ne réinvente pas la roue. La pop carbure à la blondeur, au sexe et à la jeunesse, ce que Carpenter incarne à la perfection sans même se forcer. Mais elle y apporte une twist qui nous éloigne de l'image de la demoiselle en détresse qui attend d'être choisie en assumant sa sexualité dont elle dicte aussi les codes. Elle prend le lead. Il n'y a pas d'hypocrisie. Sabrina Carpenter ne fait pas semblant d'être vierge comme ses prédécesseurs au tournant des années 2000. Avec elle, on part du principe qu'on est face à une femme adulte qui est sexuellement active, pas de fausse pudeur ou d'attitude de Sainte-Nitouche. Une attitude qui, je l'avoue, clash un peu avec sa petite taille, son apparence de blondinette au visage angélique et ses looks très coquets aux couleurs pastel. Beaucoup ont tendance à la voir plus jeune qu'elle ne l'est réellement, mais la vérité, c'est que Sabrina Carpenter a 26 ans et ne fait pas de la musique pour enfants. Alors, arrêtez de compter sur elle ou sur les autres popstars pour élever les vôtres. Ensuite, cette femme est lucide, critique, pleine d'autodérision aussi. C'est elle qui utilise les hommes avant de se faire utiliser par eux. Elle ne leur trouve pas d'excuses pour leur mauvais comportement. Elle n'hésite pas à les qualifier de douchebags ou d'incompétents quand ils la déçoivent. Elle corrige même leur syntaxe. Sabrina Carpenter est consciente que la barre est basse et n'a aucune patience envers les hommes médiocres, même si elle se résigne parfois à en garder certains comme plan cul, faute de mieux. Why so sexy if so dumb? Demande-t-elle exaspérée dans Manchild, le single accompagnant l'annonce de son nouvel album. Bref, son nouveau branding est clair et tous les éléments précédents ont fait d'elle une icône féministe qui revendique désormais fièrement le statut de « bitch ». Vous écoutez La Bitch de service, une chronique de Vanessa Destinée parue le 18 juin 2025 dans Urbania. Une pochette loin de faire l'unanimité. Or, en la voyant à quatre pattes devant un homme dont on ne voit pas le visage et qui la tire par les cheveux, j'ai eu peur que la popstar ne régresse. Si je ne doute aucunement de l'agentivité de Sabrina Carpenter, c'est son choix de se présenter ainsi que je remets en question. Cette image, quand on la reçoit comme spectateur, évoque la soumission plutôt que la libération. Comprenez-moi bien. J'adore l'idée de détabouiser la sexualité féminine et de la montrer sur tout son spectre, de la romance sirupeuse aux kinks les plus inavouables. Il n'y a rien de mal à vouloir se ramasser à quatre pattes devant un homme. Get daddy, mamachitas. Mais vendre cette image-là aux masses, dans le contexte chargé que l'on connaît, ça me laisse perplexe. Le titre de l'album a beau être ironique, la mise en scène visuelle, elle, laisse un goût amer, celui du recul dans un climat sociopolitique marqué par une montée en force du conservatisme religieux en Occident et la normalisation des discours masculinistes dans l'espace public partout sur la planète, gracieuseté des réseaux sociaux. Et si ces tendances gagnent du terrain, c'est aussi parce que de nombreuses femmes sautent dedans à pieds joints, indifférentes au fait d'être complices de leur propre oppression. Oui à la liberté de choix. Mais que fait-on quand ce choix, combiné à celui de milliers d'autres qui pensent de la même manière, conforte les conservateurs et les masculinistes dans leurs opinions et nous fait toutes reculer de 70 ans en arrière? Face à la controverse, Sabrina Carpenter a pris le temps de réagir aux critiques. Je ne veux pas être pessimiste, mais je sens vraiment que je n'ai jamais vu une époque où les femmes étaient autant critiquées et scrutées au peigne fin. Je ne parle pas juste de moi. Je parle de toutes les femmes artistes qui font de l'art en ce moment. Je comprends ce qu'elle dit, même si je trouve qu'il y a de l'hyperbole. Les femmes artistes l'ont toujours eu rough. Ce qui est différent maintenant, c'est bien sûr l'omniprésence des réseaux sociaux qui libère la parole et la diffuse 24/7, mais à chaque époque son struggle. Avant ça, il y avait les lignes ouvertes à la télé et à la radio, les magazines à potins et les paparazzis, les éditoriaux et les caricatures dans les journaux, puis le fou du roi qui se foutait de ta gueule durant le banquet. De Marie-Antoinette à Britney Spears, en passant par Marilyn Monroe, elles y ont toutes goûté en y laissant parfois leur tête, au sens propre comme au sens figuré. Again, je comprends ce que Carpenter dit, mais je me demande vraiment quel est le mérite artistique de sa photo. Le cliché est littéralement cliché. Il n'y a aucun message, aucune profondeur, aucune subtilité. De mon point de vue, la photo est faussement edgy, puisqu'il n'y a absolument rien de subversif dans le fait de voir une jeune femme à la bouche entrouverte et aux yeux de biche à quatre pattes devant un homme anonyme qui la domine. C'est même terriblement banal, dans une société où le mépris des femmes est monnaie courante. Une société qui permet à des types lambda de venir violer une femme inanimée dans son propre lit sur invitation de son mari. C'est ça, la société dans laquelle on vit. Alors, on n'a pas le luxe de continuer à glamoriser la domination masculine sans faire le moindre effort pour proposer un semblant de point de vue alternatif où les rapports de force sont inversés. La pochette d'album de Sabrina me gosse. Parce qu'elle est pornographique aussi. Soft, mais pornographique pareil. Et la porno mainstream, qu'elle soit soft ou hard, est pensée pour le regard masculin. Ce n'est pas une industrie équitable. Je sais que c'est paradoxal, mais en cachant le visage de l'homme, c'est plutôt Sabrina Carpenter que l'on déshumanise, j'insiste. On est dans un rapport de force classique et la jeune femme y apparaît telle un vulgaire objet dont on peut disposer une fois qu'on a fini avec. Ici, on ne s'émancipe pas. On joue littéralement dans le même film classé X. Sale pub sexiste. La photo de Sabrina Carpenter, loin d'être unique ou rafraîchissante, a juste l'air d'une photo qui pourrait être utilisée pour nous vendre littéralement n'importe quoi. Des souliers, un parfum ou une montre Rolex. Tant l'objectification des femmes est un procédé publicitaire banalisé. Je suis assez vieille pour me rappeler des autocollants Sale pub sexiste, placardée dans le métro de Montréal durant les années 1990 et 2000 pour dénoncer l'omniprésence de ces publicités où les femmes servaient essentiellement de « prop » pour nous vendre de la cochonnerie. Rien dans la photo de Sabrina Carpenter ne nous élève collectivement. C'est particulièrement évident quand elle est décontextualisée. Et j'aimerais bien que Sabrina Carpenter le reconnaisse, plutôt que de faire semblant qu'il s'agit là d'un véritable coup de circuit féministe. Après tout, son branding de pin-up Kirky date d'il y a à peine 5 minutes. Une image unidimensionnelle savamment construite par une équipe pour l'aider à se distinguer de ses camarades de l'industrie. Rappelons-nous aussi que son album « Short and Sweet » est sorti en août 2024 et déjà, elle arrive avec une nouvelle proposition servant essentiellement à battre le fer pendant qu'il est encore chaud. C'est un « money move ». Soyons sérieux 2 minutes. C'est dur de croire à une démarche artistique sincère et authentique de Sabrina Carpenter quand on sait qui tire réellement les ficelles dans l'industrie de la musique. Indice, ce n'est pas les femmes. Fille, fais juste dire que tu sais que le sexe vend et que ton équipe et toi avez voulu exploiter le filon parce que vous saviez que ça serait payant et que ça allait faire jaser. Ça s'appelle du shock value. Et y a rien de mal à ça. Les rappeuses le font tout le temps. Ça fait partie du hustle culture. Assumez-vous, bon Yen, au lieu de nous gaslighter en vous appropriant une cause plus grande que vous. En terminant, j'aimerais mentionner ce commentaire qui résume bien l'affaire. Si la satire avait été réussie, les hommes auraient été inconfortables et les femmes se seraient senties vues et entendues. Mais en ce moment, on est loin de ça. Au contraire, l'image pousse actuellement les femmes à se déchirer entre elles pendant que les hommes rient dans leur barbe. C'est rochant pour moi d'écrire tout ça parce que j'ai vraiment l'impression d'être à un intertitre de Slaughter Shamer, Sabrina Carpenter, et je ne veux pas devenir la Denise Bombardier d'Urbania. Mais en même temps, je ne pense pas qu'on puisse se permettre de passer à côté d'une critique féministe radicale dans le contexte actuel, sa démarche artistique s'inscrivant dans un continuum qui la dépasse. Et tant pis si ça fait de moi une bitch. C'était La Bitch de service, une chronique de Vanessa Destinée, parue le 18 juin 2025 dans Urbania.